Ouais.
Okay. Bonjour Corey.
Bonjour Harrison.
Tu vas bien?
Très bien, et toi?
Ça va. Un dimanche.
Moi je suis un peu malade, mais on va voir comment ça se passe.
Moi aussi. Ouais, moi aussi, mais bon, c'est le, je pense que c'est le dernier coup de l'hiver. Et alors qu'ici, à Marseille, il fait beau. Il y a du soleil et c'est le printemps. Les dernières maladies hivernales.
Et puis, on a dit qu'on allait faire ce podcast, et donc, le show must go on, comme on dit.
Le quoi?
The show must go on.
The show must go on, yeah. Break a leg.
Ben ça, c'est encore autre chose, mais en tout cas, on a dit qu'on allait faire ce podcast ensemble.
En langue française.
En français, qui est une langue que je ne maîtrise pas parfaitement, on va dire.
Oui.
Donc, je vais faire peut-être quelques fautes. J'ai mon petit accent, mais on s'est dit que ce sera marrant de faire ce podcast en français.
Donc, on demande une certaine indulgence et de patience vis-à-vis de nous.
Oui.
Toi et moi, bon, on vit en France depuis quelques années, mais on vient des États-Unis. Et on pense beaucoup aux États-Unis. Et bah, en fait, on voulait parler des États-Unis, peut-être aux Français.
C'est ça, c'est ça. Et puis, c'est pas la première fois qu'on fait une discussion comme ça ensemble, parce qu'on avait fait une conférence à la fête de la Saint-Jean il y a 2 ans. La fête de la Saint-Jean du Parti communiste dans le 19e arrondissement de Paris, où il y avait une table ronde sur la gauche américaine.
Oui.
On a, qui était organisé aussi par Jacobin, un magazine pour lequel toi et moi on écrit tous les deux.
Le DSA aussi.
Jacobin et les DSA, les Democratic Socialists of America.
Oui.
Qui est une organisation socialiste, qui n'est pas un parti politique, mais qui est une organisation socialiste qui soutient des candidats qui se définissent, qui s'identifient comme socialistes, mais qui sont presque exclusivement des démocrates aux États-Unis.
Oui. Franchement, c'était juin 2022.
Oui.
On était presque au mi-mandat de Biden. Donc l'heure était un peu au recul et à l'analyse de où est-ce que en fait cette nouvelle expérience, on va dire, d'une gauche centriste de retour après les 4 années cauchemardesques de Trump, on va dire, où est-ce que ça allait en fait, tout le militantisme et l'organisation politique qui a eu lieu pendant le mandat de Trump de changer le Parti démocrate de l'intérieur. Après les deux premières années de Biden, c'était un peu un moment assez propice pour penser à où ça allait, les prochaines étapes, un peu les points morts aussi. Et aussi, c'est intéressant, deuxième titre, c'était aussi le jour même, je pense, le lendemain d'une décision de la Cour suprême qui a, de fait, invalidé le droit constitutionnel à l'avortement. Donc, c'était un peu un moment phare de la capacité de la droite et la réaction politique aux États-Unis de s'incruster dans les institutions et de gangréner, même au moment d'un gouvernement de gauche, en quelque sorte. Et je pense que ça, pour penser à ce moment-là, ça, je pense que c'est un peu des thématiques et des sujets qu'on va beaucoup creuser aujourd'hui et auxquels on pense toujours.
C'est ça, je pense que là, pour un premier podcast, on va parler beaucoup de la gauche aujourd'hui, mais le but c'est de parler aussi de la droite dans un prochain épisode, et puis aussi la crise de nos institutions qui sont... pas très démocratique, on va dire, le Sénat, le collège électoral, la Cour suprême, des institutions qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir dans notre système qui, finalement, n'est pas si démocratique que ça. Mais ça, ce sera pour plus tard.
Oui.
Aujourd'hui, on voulait parler de la gauche et de cette nouvelle gauche états-unienne, incarnée par, peut-être deux personnages un peu phares, Bernie Sanders, sénateur du Vermont, vieux socialiste qui a plus de 70 ans, et Alexandria Ocasio-Cortez, jeune élu de New York, du Queens, qui est élu en 2018. Donc, cette nouvelle gauche qui monte un peu en puissance, mais qui a du mal un peu à se positionner aujourd'hui. Donc, on voulait parler de ça, de tout ça, avec, pour base, on voulait commencer avec... il y a un livre qu'on a lu tous les deux qui raconte un peu cette... l'aventure de cette nouvelle gauche états-unienne qui s'appelle The Squad, qui est un livre de Ryan Grimm, qui est journaliste correspondant à Washington pour The Intercept. Ryan Grimm qui suit cette nouvelle gauche depuis des années. Et donc le titre
du livre.
Officiel du livre, c'est The Squad, AOC, and the hope of a political revolution. Donc AOC et l'espoir d'une révolution politique. Voilà. The Squad qui fait référence à ce groupe d'élus, de jeunes élus démocrates qui sont venus, qui ont été élus en 2018, donc au mi-mandat de Donald Trump.
Il se veut un peu le livre de bilan de cette, un peu de, parce que ça clôt un peu un premier chapitre d'une tentative de gauchiser le Parti démocrate. Je pense que c'est un peu le but de Grimm. Et peut-être juste pour parler de la... Genre, qu'est-ce que c'est que ce livre? Je pense que c'est un peu... c'est vraiment un livre très recherché. Et c'est quelqu'un, c'est un journaliste, enquêteur, The Intercept, qui a eu énormément d'accès. Toi et moi, on en parlait en dehors de cette séance d'enregistrement, mais c'est très impressionnant à quel point chaque chapitre, c'est vraiment juste bourré de citations de plein de figures du Parti démocrate. Il a eu énormément d'accès à Ocasio-Cortez. Et en revanche, en fait, en bon journaliste, je pense là, peut-être c'est ce que toi et moi, on voulait faire de ce livre, en bon journaliste, Ryan Grimm, peut-être il se met pas trop en recul, en fait. Mm-hmm. Il reste très près des luttes de pouvoir interne du Parti démocrate, là où AOC et ses camarades, entre guillemets, The Squad, se mettaient vis-à-vis de l'élite du parti, à savoir, pendant ces années, Nancy Pelosi, une figure très importante. Mais en fait, nous, en lisant ce livre, on voulait un peu faire l'analyse que Grimm, il se garde de faire parfois.
C'est ça,
Et c'est un moment intéressant d'y penser parce qu'on est à quelques mois d'une élection qui est assez sombre et glauque à 6 mois de cette réélection ou cette élection qui va être un rematch de Biden et Trump, que ce soit la réponse catastrophique de Biden à la crise ouverte le 7 octobre entre Israël et Palestine, que ce soit
son âge, je pense que c'est le sujet principal, peut-être, pour les électeurs démocrates.
Oui. C'est la première campagne où il n'y a pas, contrairement à 2020 et 2016, les élections récentes, il n'y a pas cette force à gauche du parti qui concurrence l'élite du parti. Il y a Biden qui recherche un mandat et bon. On veut revenir à cette 8 ans d'histoire avec ce livre.
C'est ça. Donc, le Squad, ça fait référence, comme je disais, à ce groupe de jeunes élus qui ont été élus en 2018 et en 2020. Donc, il y a Alexandria Ocasio-Cortez de New York.
Le chef de file, le tête d'affiche.
Il y a Ilhan Omar du Minnesota, de Minneapolis. Il y a Rashida Tlaib, qui vient de Détroit, dans le Michigan, en 2018. Ensuite, il y a Jamal Bowman en 2020. Il y a Cory Bush aussi 2020. En 2020. Et puis, j'avais oublié Alana Presley, du Massachusetts, qui était lui, elle aussi, en 2018.
Et c'est bon, The Squad, c'est un peu le marketing de ce groupe, c'est un terme très médiatique.
Ouais.
Mais bon, on va dire que c'est une poignée d'élus, de représentants, dans la Chambre des représentants, c'est-à-dire la Chambre basse du Congrès aux États-Unis.
Ces élus aussi, ils ont décidé de faire des primaires contre les candidats démocrates du l'establishment, comme on dit. Elles ont réussi à gagner, je dis elles parce qu'elles sont presque que des femmes, avec l'exception de Jamal Bowman. Elles ont gagné des primaires face à des démocrates qui étaient élus depuis des années. Et donc, c'est ça aussi qui les distingue. Mais
L'élection de 2018...
C'est ça.
Et aussi... C'est assez incroyable comme élection. C'est quelqu'un qui... elle s'était un peu radicalisée, on va dire, pendant la première campagne de Sanders. Elle était militante avec la campagne de Sanders. C'était un... On a déjà dit, c'est un millénial,
elle travaillait dans un bar.
Pendant sa campagne. Elle vivait chez sa mère dans le Bronx. Et bon, elle décide de concurrencer Jim Crowley, qui est, à plusieurs égards, le dauphin de Nancy Pelosi pour la présidence de la Chambre des représentants.
Qui allait remplacer Nancy Pelosi.
Oui.
À la Chambre des représentants, comme tête du Parti démocrate.
Oui. Peut-être juste pour vraiment se remettre dans l'état d'esprit au milieu des années 2010, à gauche, dans le Parti démocrate. C'est un moment, maintenant qu'on a un peu ces figures d'une nouvelle gauche, entre guillemets, c'est dur un peu à se rappeler à quel point c'était... le terrain était assez vide très récemment, donc en 2016. C'est l'élection de Trump, mais avant ça, c'était l'élection où on avait un Bernie Sanders qui sortait un peu de son fief de virement pour mener une campagne interne pour prendre le Parti démocrate et au lieu de Clinton qui éventuellement a gagné. Mais peut-être pensons à ce moment qui paraît si lointain.
Ouais, moi, je me rappelle, je vais peut-être raconter une anecdote assez rapidement. Quand moi j'ai commencé ma carrière journalistique, je travaillais pour un magazine qui s'appelle In These Times Magazine, un petit magazine qui était basé à Chicago, créé dans les années 70. Donc assez c'est progressiste comme on dit aux États-Unis. Moi j'ai travaillé à Washington où je couvrais la politique nationale entre guillemets pour ce magazine. C'est-à-dire que je faisais un article par semaine, deux articles par semaine sur ce qui se passait au Congrès et sur ce qui se passait à Washington. C'est ça le but. En tout cas, moi je me rappelle au début de ça qu'on m'avait invité à un déjeuner organisé par Bernie Sanders. Je pense qu'on appelait ça Brunch with Bernie. Donc, je pense que nos auditeurs comprennent le mot brunch. Donc, il y avait ce brunch with Bernie tous les deux semaines, il me semble, ou une fois par mois. C'était un ami syndicaliste qui m'avait invité. Il m'a dit, si tu veux venir, viens, comme ça tu rencontres un peu des gens à Washington et puis tu auras l'occasion de poser une question ou deux à Bernie Sanders. Et à ce moment-là, moi, je me rappelle très bien, en 2013... C'était vraiment les losers du Parti démocrate. En fait, Bernie Sanders, c'était un personnage très très marginal, un mec un peu vu comme juste un peu étrange. Il est très vieux, il a un accent du Brooklyn, élu dans le Vermont, qui est un État très très progressiste. Il s'identifiait comme déjà à l'époque comme socialiste. C'était un peu un ovni quoi dans le paysage politique américain. Mais quand même quelqu'un qui était très apprécié par une petite minorité de gens à gauche, apprécié par des syndicalistes, mais un mec, quelqu'un qui avait très peu d'influence finalement. Il avait très peu d'influence. Et donc Sanders, moi je me rappelle très bien à ce brunch en 2013 qu'il avait, il disait qu'il voulait faire un road trip dans le sud des États-Unis pour voir si son programme, pour voir si ses idées allaient trouver écho dans ce coin qui est un peu dans ces différents États qui étaient ignorés par le Parti démocrate. Le sud des États-Unis parce que c'est une région assez pauvre, une région assez conservatrice aussi. Et donc Bernie Sanders à l'époque il critiquait le fait que le parti s'en foutait de ces électeurs là. Et lui il était persuadé, convaincu que en apportant des idées claires, des propositions économiques, des propositions sociales très claires, que il allait pouvoir convaincre ces électeurs là. Donc Sanders a fait ce road trip, moi je l'avais accompagné à la toute fin du road trip, j'ai demandé quand même. C'est un peu étrange ce que vous faites là. Pourquoi vous faites ce road trip dans le sud? Vous êtes élu dans le Vermont. Qu'est-ce que vous faites ici vraiment? Est-ce que vous pensez peut-être vous présenter en 2016 aux élections présidentielles alors que tout le monde pensait que Hillary Clinton allait être la candidate? Et Sanders a dit c'est pas impossible. Il a dit I haven't ruled it out. C'est pas impossible. Il se trouve que ce road trip en 2013 était un peu le début de cette campagne, ce début non officiel, parce qu'il le rappelle dans son livre, il a cité mon reportage dans son livre qui raconte la campagne aussi, donc c'était un point important, ce road trip. Mais Sanders, il est persuadé qu'avec, comme je disais, avec des propositions sociales, il allait pouvoir convaincre non seulement des électeurs qui votent parfois pour les républicains, mais surtout des abstentionnistes, des gens qui sont tellement dégoûtés par la politique. Et c'était le pari de Sanders, avec des propositions claires. Je parle de quoi ? SMIC, c'était la proposition phare de Sanders. Hausse du SMIC fédéral à $15 l'heure.
C'est la période aussi d'avant une des autres propositions phares qui est devenue la proposition phare de cette groupe à gauche, le Green New Deal.
Voilà, il y avait
à cette époque-là, on parlait déjà d'une mobilisation beaucoup plus conséquente pour contre le réchauffement climatique, de politique environnementale très radicale. Je pense que ce que Sanders voyait, mais les gens autour de lui, c'est qu'il y avait un colère qui n'était pas captée politiquement par le Parti démocrate, à savoir, on avait en 2011 Occupy Wall Street contre la déception d'Obama au cours de ses deux mandats d'avant 2016. Il y avait aussi l'amorce d'un nouvel mouvement contre le racisme aux États-Unis au cours de surtout le deuxième mandat d'Obama, et il y avait cette le Parti démocrate, stratégiquement, pendant une bonne trentaine d'années, s'était mis à un peu à jouer dans l'ombre de ce que dictait le Parti républicain. C'était un peu ça, le pari stratégique plus large, c'était que c'est le Parti républicain qui est parvenu, du fait de la révolution réganienne, la réaction des années 80, à vraiment définir le cadre dans lequel se joue la politique américaine, que ce soit sur la criminalité. Bon, on a Reagan, je sais pas, c'est un des phrases clés, ou un des expressions clés de la droite, une sorte de, faut mener une guerre contre la criminalité. Et les démocrates avaient un peu cédé sur ce point. Il fallait ne pas se montrer indulgent vis-à-vis des petits criminels. Et qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Ça avait mené à une situation au début des années 2010 où enfin les gens, le grand public voyait un système d'incarcération en masse où disproportionnellement des hommes noirs sont mis en prison. Et bon, il y avait vraiment un sentiment, je pense, au milieu des années 2010, que le Parti démocrate, stratégiquement, c'était complètement aveugle et avait complètement levé les drapeaux blancs face à la droite.
Oui, et puis Clinton qui reprend quand même un peu le cadre général du réganisme.
Oui, sur l'ordre économique,
sur toutes les questions sociales et économiques, ouais. On pourrait dire, pour remplir un mot un peu cru, le néolibéralisme. C'était, oui. Il y avait un consensus néolibéral, oui, dans les deux parties. Clinton avec des réformes pour soutenir le secteur financier, pour libéraliser les marchés, avec son soutien des accords de libre-échange. Avec ce qu'il appelait le end of welfare as we know it, donc la fin des certaines dettes sociales. Clinton avait continué un peu le travail qui a été commencé par Reagan. Donc comme tu disais, le Parti démocrate à ce moment-là, dans les années 90, avait accepté ce qui avait été proposé par la droite, et puis Obama aussi, oui. Quand Obama a été élu en 2008, finalement le bilan est assez décevant aussi.
Oui. Et bon, ça c'est des phénomènes que les auditeurs et auditrices françaises reconnaîtront. Au début des années 2010, sentiment de c'est la crise de la centre-gauche. Ce qu'il a aussi, il faut noter, pour vraiment comprendre le contexte français, pardon, américain, vis-à-vis de la situation française-européenne. Contrairement à la France, où en cette période, un peu la gauche s'est construite en dehors du Parti Socialiste. Genre, cette nouvelle gauche qui mènerait, le populisme de gauche que mènerait Mélenchon, le début de LFI. Aux États-Unis, oui, là on parle en fait des équivalents de cette crise et de cette nouvelle mouvement politique. Mais aux États-Unis, il y a un problème, et c'est la domination du système bipartisan. Et ça, c'est une question, une tension qu'on verrait de 2016, c'est la première tentative de Sanders de prendre le flambeau du Parti démocrate, à aujourd'hui. Et aux États-Unis, il se trouve qu'on a deux partis qui sont dominants plus ou moins depuis la guerre civile. Évidemment, il y a eu des mutations, mais le Parti démocrate et le Parti républicain, ce sont des institutions qui se sont incrustées dans la politique américaine. Et donc, cette nouvelle gauche... La stratégie, c'était d'infiltrer le Parti démocrate. Et on fait un peu le bilan de cette tentative d'infiltrer, au lieu qu'en Europe, on voit des tentatives de construire des partis en dehors de la centre-gauche.
Parce que Sanders, à ce moment-là aussi, donc Sanders est indépendant. Il vote avec les démocrates, mais il est indépendant. Mais il fait le choix, il décide que pour faire une vraie campagne présidentielle, pour avoir suffisamment de visibilité, qu'il faut absolument se présenter comme démocrate, présenter dans les primaires démocrates. C'est un choix qu'il fait, pas parce que, je pense que, surtout à ce moment-là, et pas parce qu'il adore le Parti démocrate. Sanders, il fait le pari, et c'est ça qui est aussi, c'est pour ça que le squad, c'est un moment clé pour le squad aussi. Sanders se dit, ok, moi je pense que nos idées sont majoritaires aux États-Unis, que ce soit sur le SMIC, que ce soit sur le réchauffement climatique, que ce soit sur une expansion d'accès aux soins.
Sur la hausse des impôts sur les plus grandes fortunes et sur les entreprises.
Voilà, oui. Il est convaincu que nos idées sont majoritaires, mais il se dit, ok, en fait, il faut une vraie campagne électorale pour montrer qu'on peut gagner, en fait. On n'est pas juste en train de débattre, de dire, ah oui, on est en train d'influencer le débat, oui, c'est très bien. Non, en fait, on veut gagner. c'était le pari de Sanders. Et ce qui se passe, c'est que...
Il était proche.
Il n'était pas loin, ouais, en 2016. Ouais,
ouais. Il y avait une peur, je pense, ça venait d'une part. Clinton était un peu le candidat... C'était le candidat
choisi
par l'appareil médiatique, par l'élite du Parti démocrate. It was her turn.
Je pense que Clinton a dit qu'Obama lui avait dit « Il n'y a personne de plus qualifié que toi ». Et elle était très fière de le dire dans son, son mémoire qui est sorti.
Une figure politique, une figure Hillary Clinton.
Elle était faite pour être présidente.
Qui est, c'est le produit pur de ce qui est devenu le Parti démocrate, le long de la domination du Parti républicain sur le système politique américain. Dans la révolution conservatrice des années 80-90, Clinton en était le produit.
Mais comme on le sait très bien, Clinton fait une campagne absolument catastrophique et l'oublie de visiter certains États, notamment dans le Midwest, qui va être une erreur fatale pour Clinton parce que Trump réussit à... Donald Trump, je pense qu'on n'a pas trop besoin de parler de lui, mais parce qu'il c'est un peu l'ombre qui hante un peu tout ça.
On critique Clinton de ne pas avoir prêté attention à Ohio, à Michigan, à Pennsylvanie, ces États.
Je pense que c'est plus qu'une critique, Harrison. Moi, je pense qu'elle s'en foutait complètement de ces États parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas besoin
de... Oui, faut se rappeler, elle a quand même eu 3 millions de votes de plus. De plus que pour telle ou telle raison dans le système électoral américain.
On va revenir sur...
On va revenir dans un épisode antérieur, mais bref.
Parce que moi, j'adore ce terme qu'on utilise en anglais de popular vote, le vote... en fait, qui n'a pas vraiment de traduction, parce que le concept est tellement absurde. Le concept est tellement absurde. Hillary Clinton avait plus de voix que Trump, 3 millions de plus, donc c'est pas rien.
Oui.
Mais bon, elle n'avait pas une majorité au collège électoral.
Oui, on y reviendra.
Oui.
Mais cette victoire de Trump est aussi... Je pense que c'est pris comme une confirmation par des gens à gauche, derrière Sanders, derrière les figures dans ce livre. C'est pris comme une confirmation que le Parti démocrate ne prend pas au sérieux ce qui se passe dans le pays, n'est pas genre, le logiciel, le regard stratégique du parti, n'est pas adapté à une situation où, qu'est-ce qu'on a en face tenue, cette partie républicaine, qu'est-ce qu'elle devient en-dessus de Trump, et on ne peut plus forcément le suivre sur le terrain. La défaite de 2016 est du carburant à tous les phénomènes que Sanders véhiculait. Et bon, c'est là, c'est cet moment, genre la crise de la défaite de Clinton aussi, qui va propulser les figures dans ce livre, The Squad.
Tout à fait. Et puis peut-être aussi pour il y a autre chose qui ressemble un peu à la situation en France. Enfin, c'est une tendance qu'on voit aussi en France. En 2016, on voit que les classes populaires, blanches parce qu'on distingue aux États-Unis, préfèrent largement Donald Trump en 2016. Et donc les démocrates, enfin l'aile un peu progressiste démocrate, eux ils se disent ok. Si on avait eu un autre candidat, si on a un autre candidat en 2020, si on a une autre offre politique, on va réussir à convaincre ces électeurs populaires qui soit votent pour les Républicains ou qui soit ne votent pas, ne votent plus, parce qu'ils s'en foutent complètement de la politique parce que la situation est tellement catastrophique que ils vont juste tourner le dos à la politique.
T'as dit 2020, mais avant, il y a une autre élection très clé qui concerne des figures comme AOC principalement. C'est les élections de mi-mandat. Donc entre 2016 et 2018, c'est un peu... la question de Trump, c'est menée par... on parle de la résistance face à Trump.
Oui.
Institutionnellement, il n'y a pas grand-chose qui se passe avant les élections de mi-mandat. Et il y a les organisations comme Justice Democrats, Brand New Congress, qui est à l'origine, qui ont l'idée de concurrencer, comme on a déjà dit, des figures, des élus démocrates dans les circonscriptions par des candidats plus à gauche. L'idée, c'est... leur idée de base, en fait, c'était d'avoir 435 candidats dans chaque circonscription, faire des primaires contre les démocrates déjà élus, qui est un peu... c'est un peu impoli, on va dire, dans la politique électorale, normalement.
C'est mal vu par
l'élite du parti de mener des primaires contre des élus déjà en place. Et il y a une poignée de réussites. de victoire, de stratégie.
Ce qui est pas aussi stratégie. Une particularité du système américain. Donc, évidemment, ouais, bon, on est forcé un peu, entre guillemets, d'être démocrate si on veut être élu, parce qu'on a ce système bipartite. Mais par contre, si vous réussissez à avoir une bonne campagne bien organisée, vous pouvez emporter des élections, vous pouvez emporter des primaires et gagner, en fait, être candidat. Ça, c'est quelque chose qui est très américain. En France, il n'y a pas vraiment d'équivalent pour ça. C'est le parti qui décide qui sera candidat ou pas. Aux États-Unis, avec les primaires, ça laisse un peu la possibilité aux autres de...
Tout en sachant que le parti garde une énorme mise sur certains éléments, notamment l'argent, le poids de financement des campagnes. Il y a des façons que les partis ou les candidats établis peuvent vraiment se barricader.
Oui, mais cette porte est un peu ouverte. Il y a une petite possibilité d'entrer dedans. C'est ce que font le squad en 2018. Pardon, juste, je pense que c'est important de rappeler le programme, donc la plateforme. On disait le SMIC, donc hausse du SMIC.
Oui.
Tu parlais du Green New Deal, donc investissement massif pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a une proposition super, super importante aux États-Unis. qu'on appelle Medicare for All. Donc Medicare pour tous. C'est quoi Medicare? Ça, c'est le système de santé subventionné par le gouvernement fédéral qui est mis en place dans les années 60, qui est proposé aux seniors, aux personnes âgées. Donc il faut avoir au moins 65 ans pour avoir accès à ce programme qui est financé par les cotisations sociales, enfin les cotisations aux États-Unis. Quand vous payez, quand vous recevez un bulletin de paie, vous payez pour Social Security, Sécurité sociale et Medicare. Donc c'est le système fédéral pour les personnes âgées qui fonctionne plutôt bien. Et donc l'idée de Bernie Sanders en 2016, c'est une idée qui est reprise par le squad en 2018, c'est de dire: on va élargir les conditions d'accès au Medicare pour que tout le monde puisse avoir accès à ce système. C'est une façon d'universaliser l'accès aux soins aux États-Unis de manière gratuite, parce qu'évidemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même après les fameuses réformes de Obamacare, c'est une réforme qui plus ou moins subventionne le secteur privé. Et donc l'idée de Sanders, l'idée du squad, c'est de dire: en fait, le gouvernement fédéral doit garantir l'accès aux soins. Et ça, c'est quelque chose qui est accepté ailleurs, au Canada, en Europe, en France, évidemment. Mais c'est un peu un changement de paradigme aux États-Unis, de dire: en fait, tout le monde mérite d'avoir accès aux soins.
Il y a aussi la question de l'annulation de la dette étudiante.
Bien sûr.
Dans quelques papiers que j'ai lus sur et aussi notamment, on dit qu'elle a toujours... elle rembourse toujours sa dette étudiante.
Ouais.
Il y a aussi des évolutions entre Sanders et la première amorce d'une gauche démocrate et le squad. Il faut noter que la plupart des personnages dans ce livre, c'est des personnes de couleur, comme on dit aux États-Unis. Il y avait des critiques de Sanders sa limite, en fait, c'était, c'est quelqu'un de l'état de Vermont, à savoir un état... très disproportionnellement blanc, et que Sanders, même s'il était rigolo, il était sympa, il avait un passé qui remontait au mouvement des droits civiques, c'était un peu l'équivalent américain d'un 68 heures, si on peut.
Ça se discute, mais
un vétéran de la gauche.
Ouais.
Il avait mené campagne avec Jesse Jackson aux années 80, un peu la dernière tentative de regauchiser le Parti démocrate dans le contexte d'une nouvelle droite de plus en plus radicale. Mais bref, il y avait des critiques quand même qui disaient que Sanders, il n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe dans le nouveau militantisme antiraciste. Cette génération de gens, de squad, là, c'est ça sur vraiment sur une vague de politisation de la question raciale aux États-Unis. Donc la demande phare, c'est la refonte du système carcéral, de la politique pénale contre la drogue. Et là aussi, c'est des propositions clés de cette mouvance.
Complètement. Et c'est pas anodin que les quatre personnages du squad au début en 2018 sont tous des femmes de couleur, comme on dit, des femmes racisées. Ouais. Et aussi, je pense, sa mère vient du Porto Rico. Ilhan Omar, elle-même, est immigrée, elle est née en Somalie, il me semble. Rashida Tlaib, elle est palestino-américaine. Et puis Presley aussi dans le Massachusetts, c'est une femme noire. Ça fait partie de leur image aussi, que pour montrer que c'est une nouvelle génération qui prend le relais. Qui ressemble aussi aux électeurs qui les soutiennent, qui vont les soutenir aux urnes.
Et aussi en termes des sujets clés aussi, fin des années 2010, on a de plus en plus une critique de la doxa de la politique étrangère américaine depuis une trentaine d'années. On entend du côté républicain, Donald Trump, au moins dans la rhétorique, mène une guerre contre le néoconservatisme ambiant du Parti républicain, cette politique impériale de l'époque de Bush. Et là aussi, parmi ces gens, on a une critique de l'interventionnisme du Parti démocrate, cette politique de guerre que menait à la fois l'administration d'Obama, de Bush, de Clinton, sentiment de l'épuisement des États-Unis avec ses engagements impériaux à l'étranger. Genre Ilhan Omar, un peu son poste rêvé, quelle brigue en entrant au Congrès en 2018, c'était « Je veux être sur la commission des affaires étrangères ». De la Chambre des représentants.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nouvelle phase qui commence en 2020? Parce qu'on a l'élection de Joe Biden, les démocrates ont une majorité maintenant, ils ont une majorité au Congrès et aussi un président démocrate.
Oui.
Donc maintenant, ils sont au pouvoir.
Oui.
C'est une chose de s'opposer aux choix grotesques, horribles de Donald Trump. Oui. C'est autre chose de faire partie d'une coalition qui est au pouvoir.
Oui, oui.
Et donc, il y a une nouvelle phase qui s'ouvre en 2020 avec l'élection de Joe Biden. Maintenant, le squad va avoir encore deux élus supplémentaires. Cory Bush dans le Missouri, Jamal Bowman dans la banlieue de New York, enfin une partie du Bronx aussi. Mais maintenant, ces six élus font partie de la coalition démocrate au pouvoir, ce qui va changer la donne.
Même si entre 2018 et 2020, le Parti démocrate est majoritaire à la Chambre, ils sont quand même à l'opposition à Trump qui reste à la Maison Blanche. Bon, les événements un peu phares de cette période avant l'arrivée de Biden, c'est les optiques, c'est les luttes de pouvoir très symboliques entre cette gauche et l'élite démocrate. La question, c'est pas quelle politique est-ce qu'on va approuver, c'est comment se positionner au moment où on arrivera au pouvoir, et ce moment arrive en 2020.
Et aussi, à la fois, elle veut faire entendre les revendications de ces mouvements sociaux qui sont pas au pouvoir, qui sont dans la rue. Elle se veut un peu l'incarnation de cette colère, de cette nouvelle génération politisée, très politisée sur les questions sociales, écologiques, antiracistes. Donc c'est quelqu'un qui vient qui est en phase avec les mouvements sociaux, mais c'est quelqu'un aussi, et Ryan Grimm le rappelle très bien dans le livre, c'est quelqu'un qui a envie d'être prise au sérieux par ses collègues démocrates, d'être à la table, de faire partie des discussions, d'être bien vue par Nancy Pelosi et les démocrates. Et c'est un peu un paradoxe, en fait, au cœur de sa carrière politique. Et aussi, juste humainement, personnellement, c'est ce que Ryan Grimm rappelle dans son livre, elle a envie d'être appréciée par des députés démocrates avec qui elle n'est pas d'accord sur plein de sujets, mais elle a envie d'être appréciée.
Oui.
Donc elle veut faire les deux en même temps, et c'est pas facile. Elle veut à la fois faire de la pression avec les mouvements sociaux, mais elle veut aussi être bien vue, aimée, appréciée par les élites du parti, en quelque sorte. Et donc, c'est une contradiction qui est un peu au cœur du personnage de AOC.
Tout à fait. Et je pense qu'on reviendra, j'espère, à la campagne 2020, parce qu'il y a des choses à dire sur la deuxième tentative de Sanders, là où se positionnent les membres du squad là-dedans. Mais un peu un deuxième événement assez phare de cette dynamique, aussi de cette tension dans l'attitude, le positionnement de AOC vis-à-vis des cadres du Parti démocrate, ou de l'élite, du Parti démocrate, c'est à l'arrivée en 2020, en fait. C'est à quelques semaines de l'arrivée au pouvoir de Biden, la préparation, enfin, d'un gouvernement de centre-gauche après les 4 années de Trump. Et il y a cette tentative, en fait, on disait de forcer un vote sur le Medicare for All, donc cette proposition phare d'élargir le système médical et de créer en fait une assistance maladie là où les États-Unis n'en avaient pas. Et il y avait des gens qui réclamaient, il faut conditionner le leadership de Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, à un vote sur cette proposition de loi. Et aussi, en fait, le début d'un certain désenchantement vis-à-vis des AOC, et ça, c'est ça un peu le contexte politique dans lequel ce livre sort, c'est un peu un désenchantement vis-à-vis de cette tentative de gauchiser le parti. Et aussi, en fait, elle a refusé de forcer un vote sur le Medicare for All, disant que ça allait forcément perdre.
Est-ce que, avant de parler du mandat de Biden, est-ce qu'on ne reviendra pas juste rapidement sur,
la
campagne de Bernie Sanders pour 2020? Parce qu'on l'oublie. On l'oublie aujourd'hui, et ça faisait mal, honnêtement, pour moi, en fait, en relisant ce, en lisant ce texte de Ryan Grimm, parce qu'on a oublié à quel point Bernie Sanders était vraiment aux portes du, du pouvoir.
Bah moi, j'ai refoulé cette période. Je pense que c'est un peu dans le monde avant Covid aussi. Ce monde en mouvement d'avant février 2020.
Sanders avait gagné plus ou moins la primaire de Iowa, il avait gagné la primaire dans New Hampshire, il avait gagné la primaire dans le Nevada, et là, pour le coup, et Sanders émerge comme le candidat, il est en tête.
Oui.
Et il avait la fameuse primaire en Caroline du Sud, qui est un état assez conservateur, où il y a beaucoup d'électeurs noirs, mais qui sont assez conservateurs aussi sur plein de questions. Et à ce moment-là, donc Jim Clyburn, qui est un député avec beaucoup d'influence, député démocrate.
Vétéran du parti démocrate. De la machine démocrate.
Ouais, qui fait partie vraiment d'une machine en Caroline du Sud.
Oui.
Appelle aux électeurs de soutenir Joe Biden, qui à ce moment-là est un candidat un peu oublié, déjà à l'époque vu comme un peu trop vieux, qui manque de charisme. Les gens se demandent, mais pourquoi il est toujours là, Joe Biden? Mais Clyburn appelle aux gens de soutenir Biden. Biden gagne cette primaire en Caroline du Sud avec une majorité écrasante. Moi, je me rappelle très bien. J'étais parce que en plus, ce qui est drôle et triste, tragique, c'est que c'est comme tu disais, c'est au début du Covid aussi. Et moi, je me rappelle, c'était la dernière soirée que j'avais faite avant vraiment que ça devienne pour moi très sérieux le Covid, où on faisait des blagues sur le virus en Italie et tout. On se demandait si vraiment ce virus allait venir en France. Et je me rappelle, j'étais une soirée, je regardais les résultats de la primaire en Caroline du Sud, j'ai vu que Sanders avait perdu. Je me suis dit, bon, c'est pas grave.
Il y a Super Tuesday.
Super Tuesday, c'est pas grave. Bon, Biden a gagné en Caroline du Sud, on s'en fout, c'est pas grave. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé après, après cette primaire? Il n'y a pas vraiment d'équivalent dans l'histoire du Parti démocrate, dans l'histoire des primaires du Parti démocrate. Oui. Tout le monde, tous les élites du parti, se sont rassemblés derrière Biden. Ils ont poussé à la porte d'autres candidats.
Oui.
Et il y a un processus de consolidation du parti derrière Biden.
La légende, c'est cette série d'appels de Barack Obama.
Qui fait très peu d'interventions politiques en général.
Oui, mais Obama. Bon, c'est un peu le doyen quand même de l'élite démocrate.
Non, je veux dire, c'est un choix de très précis d'Obama de dire, OK, là, en fait, c'est vraiment trop important, en fait. Il ne faut pas que je fasse rien là. Il faut que je commence à appeler des gens parce que c'est impossible d'avoir Bernie Sanders comme candidat face à Trump. Ce n'est pas possible.
Et relisant aussi dans le livre, il y a des pages entières presque d'extraits, de commentaires par des journalistes, des figures, des grands médias. Et c'est en quelque sorte un meltdown. Il y a un lever de bouclier de la peur de Sanders assez ridicule. Bon, c'est pas forcément au point de on va avoir des chars de Moscou sur place de la Concorde, mais on y est presque, quoi. On élit Sanders, c'est Fidel Castro, c'est Chavez au pouvoir à Washington. Obama mène fait cette série d'appels. C'était une dizaine de candidats, je crois, dans le champ quelque chose comme ça, dans le champ démocrate. Et pendant quelques soirs, quelques jours, on se trouve à une élection où tous les candidats se sont retirés et se sont rangés derrière Biden. Sauf Elizabeth Warren. Bon, l'espoir, un peu le regret à gauche, c'est si seulement Elizabeth Warren savait que Sanders était le candidat derrière lequel la gauche allait se réunir.
C'est un peu le Fabien Roussel de, de la primaire démocrate. Si Warren avait juste soutenu Bernie Sanders, Mélenchon aurait été au second tour. Mais en fait, ce qui est drôle, bon, on peut faire des liens comme ça, mais moi, je pense que Sanders avait beaucoup plus de chances de gagner l'élection que Mélenchon. C'est une chose, Mélenchon au second tour, bon, très bien, je pense qu'il aurait perdu face à Macron. Pour moi, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Par contre, Bernie Sanders pour moi, avait une vraie chance de... Je pense qu'il aurait gagné cette élection contre Donald Trump. Il n'y a pas de...
Très peu de pour moi. Bon, là, on est dans les hypothèses absolues.
Oui, oui, mais c'est intéressant quand
on
même.
Aurait dû ça, est-ce qu'on aurait vu un troisième candidat? Bon, ça, c'est, tout le monde parlait d'un éventuel troisième candidat, peut-être derrière Michael Bloomberg, donc une grande fortune, des milliards de dollars, figure financière médiatique de New York, l'ancien maire républicain qui avait essayé de briguer aussi le soutien du Parti démocrate. Donc aussi, les gens se mettaient à parler sérieusement d'une troisième candidature, un peu du centre, de l'extrême centre politique aux États-Unis. Donc, on ne sait pas. Mais moi, je me rappelle de cette période, j'y croyais en quelque sorte. Peut-être que j'étais un peu naïf, ou je ne sais pas quoi, mais j'y croyais en quelque sorte. Et on paraissait début 2020... qu'une fenêtre s'ouvrait et que Sanders, en fait, toute cette énergie qui se construisait depuis 2016, depuis 2018 surtout, allait vraiment déboucher sur quelque chose. Mais bon, là, on se rend trop nostalgique, mais Biden, c'est... En France, on dirait que c'est un éléphant. Mais bon, je ne veux pas chanter le louange de Biden, mais je pense, toi et moi, on est un peu d'accord qu'il a une souplesse stratégique, un regard stratégique un peu plus intelligente. Si on veut la comparer au Bernard Cazeneuve, au Anne Hidalgo, au Françoise Hollande de la France. Et lui, il savait dès l'avant-inauguration, dès sa campagne à l'automne 2020 contre Trump, qu'il fallait, il fallait coopter, il fallait utiliser cette énergie à sa gauche pour changer la donne et pour gouverner.
Tu peux dire coopter, mais c'est aussi rassembler. C'est ce que fait un bon politicien aussi, c'est savoir rassembler les électeurs derrière lui. Donc il faut convaincre, il faut mobiliser les jeunes, il faut mobiliser les gens qui sont passionnés par le réchauffement climatique, enfin par la lutte contre le réchauffement climatique et tout un tas de sujets, ce que Biden réussit à faire. Mais quand il arrive au pouvoir, en début 2021, je pense que lui, il comprend, et l'équipe autour de lui aussi comprend qu'il faut compter, il faut voir le squad comme, bon, il y a un mot qu'on utilise en anglais qui est pas parfait, mais c'est un peu des frenemies, en fait. C'est des alliés, c'est des rivaux un peu, mais c'est aussi des alliés. Et fondamentalement, les démocrates, la Maison-Blanche, ils comprennent qu'ils ont besoin du soutien du squad pour faire approuver leur proposition au Congrès, pour mobiliser et pour montrer aux électeurs que finalement, il y a la Maison-Blanche qui les écoute. Et donc, pour faire donc sur les questions climatiques, sur les questions sociales, Biden reprend quand même des éléments de langage et plus des éléments de langage. Il reprend des propositions du squad et de l'aile gauche du Parti démocrate.
Retournons aux premières luttes, aux premiers débats, projet de loi en début 2020. Donc, pardon, début 2021, parce que vous avez l'élection de Biden, novembre 2020. Trois mois de crise et de discussion qui mène à la prise du Capitole le 6 janvier.
Un petit coup d'État.
Une petite tentative de coup d'État par l'extrême droite. Et le 20 janvier, c'est le 20 janvier. Bon, fin janvier, vous avez l'arrivée au pouvoir de Biden. Est-ce qu'il va devenir une sorte de nouvelle Roosevelt pour évoquer le figure titulaire un peu de la centre-gauche américaine, Franklin Roosevelt, des années 30. Bon, et à cette période, crise Covid, souvenir des 4 années de gouvernement fascisant, et vous avez un peu un moment où les propositions sortent et vous avez des choses qui sont proposées et mises en avant potentiellement par l'élite démocrate qu'on n'a pas vu depuis les années 60 peut-être. Et Lyndon Johnson, une possibilité, une fenêtre semblait s'ouvrir de production législative assez impressionnante. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites, il y a eu des retraites, mais il y a eu quelques avancées.
Oui, si vous regardez le plan de relance de Biden, le plan de sauvetage américain de 2021, donc ce plan a été adopté donc pour un montant de 1 900 milliards de dollars, somme absolument immense. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ce plan de relance de Biden donc en 2021 avec le plan de relance de Barack Obama en 2009, et juste après donc la crise financière aux États-Unis, le fameux stimulus de Barack Obama. qui finalement est assez modeste quand tu le compares avec le plan de relance de Biden. Ça montre qu'il y a eu une évolution de pensée assez, assez importante au sein du Parti démocrate. Aujourd'hui, on considère plus ou moins que le plan de relance de Biden, d'Obama, était un peu trop modeste, un peu trop timide vu le contexte économique. Et donc l'équipe de Biden se dit, là, on ne va pas rater le coup, on va faire un vrai grand plan de relance. Et c'est ce qu'ils font avec un plan de 1900 milliards de dollars, donc une somme immense.
Et dans sa première forme aussi, c'était une tentative de pérenniser les avancées sociales qu'on a en Europe, qu'on a ailleurs, mais qu'aux États-Unis reste tabou, dont le congé paternel maternité,
les allocations chômage aussi,
les allocations chômage, une des propositions phares de cette nouvelle gauche, une augmentation du SMIC au niveau fédéral, donc à tous les États, peu importe, on avait déjà des États qui avaient approuvé une augmentation du SMIC à 15 euros, il y avait d'autres États où ça restait beaucoup plus bas, mais là il y avait une tentative de pérenniser partout dans les États-Unis, à niveau du SMIC à 15 dollars, pardon. Et donc là, c'était un peu un new deal, comme on disait. C'était de mettre sous la reprise de la crise du Covid des grandes avancées sociales qui avaient été un peu les propositions phares des années précédentes. Je pense que ça amène à un peu une discussion à avoir sur cette première période, et c'était une des défaites. Est-ce que c'était une défaite stratégique ou tactique, où ils ont échoué à remporter une très importante bataille à gauche sur la stratégie à mener vis-à-vis de la procédure parlementaire dans le Congrès. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles du Congrès aux États-Unis sont très prometteurs pour le conservatisme, en fait. Vous avez dans le Sénat, donc la chambre haute du Congrès, une règle qui veut dire que, en fait, pour clôturer...
filibuster.
Ouais, tu parles du filibuster, oui. Pour fermer ou pour en finir avec le débat sur un projet de loi, il faut 60 votes. Alors que pour voter un projet de loi, il faut une majorité simple, c'est-à-dire 50 sénateurs plus 1, 51. Donc ça, c'était un peu l'épée de Damoclès, si on veut dire. Je pense que c'est l'expression française. C'était un peu l'épée de Damoclès sur toute proposition.
Et déjà, on a vu, ce filibuster n'applique pas à toutes les propositions de loi. Donc ça ne s'applique pas aux nominations de juges.
C'est le McConnell.
C'est Mitch McConnell qui est un sénateur républicain qui avait instauré cette nouvelle règle. pour le filibuster, mais il y a aussi un autre processus législatif qui permet aux démocrates d'éviter
les projets de loi de financement, en fait, les lois budgétaires, les lois budgétaires sur les fonds n'ont pas besoin de passer par un vote de clôture.
Ce qui fait que si vous avez envie de vraiment faire des choses, il faut trouver des moyens de mettre tout là-dedans. En fait, il faut mettre toutes les mesures dans les propositions de reconciliation, c'est ce que les démocrates ont fait en 2021.
Oui.
Et c'est un peu le seul moyen de faire avancer les choses. Sauf si vous avez envie de revenir sur le filibuster et tout simplement en finir avec le filibuster, supprimer le filibuster.
Ce qui a été aussi une proposition
des démocrates.
Ce qui a été la demande de la gauche. Démocrate, il faut en finir avec cette règle. Les républicains, c'est pas une opposition pluraliste et il faut qu'on a une fenêtre pour les vaincre et on a une fenêtre pour faire passer les réformes qu'on veut et il faut qu'on exploite cette petite créneau de temps qu'on a pour faire des grandes avancées. Bon, bien sûr, ça va heurter les sensibilités de l'autre côté politique, ça va heurter les sensibilités du centre parti qui tient un peu à cette mythe de bipartisanship, d'un compromis, d'une consensualité politique, mais il faut qu'on enfonce dans l'opportunité qu'on a, et ça veut dire en finir avec le filibuster. Bon, les démocrates n'ont pas choisi ça.
Oui, il y avait, comme tu disais, une certaine logique derrière. Ils sont élus, ils ont un mandat démocratique, un mandat populaire pour faire approuver leurs idées, les transformer en texte législatif, mais finalement, il y a suffisamment d'opposition pour que les démocrates ne suppriment pas le filibuster. Parce que l'autre argument, c'est de dire, c'est ce qu'on entendait beaucoup à l'époque, on disait, si jamais on enlève le filibuster maintenant, ça veut dire que quand les républicains arrivent au pouvoir, eux, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Et donc, Le fait de Bastille, c'est aussi un levier qu'on peut utiliser contre les républicains si jamais un jour ils reviennent au pouvoir. Mmh. Et d'ailleurs, il faut le dire, les démocrates ont beaucoup utilisé le filibuster contre les républicains quand Donald Trump était au pouvoir et quand eux, ils avaient une majorité au Sénat.
Oui.
Donc, il y a d'autres personnes qui disent, les principes, on s'en fout un peu de tout ça. Il faut utiliser le filibuster quand on est en minorité. Mais par contre, quand on est en majorité, eh ben, on s'en fout du filibuster. On enlève et on fait en sorte que les républicains ne reviennent jamais au pouvoir au Sénat.
Mm.
C'était un autre argument.
Et je pense que ça vient un peu au débat plus large. On va dire peut-être la réponse à la crise américaine au sens le plus large du terme et le débat entre cette aile gauche démocrate et un peu le centre du parti. Quelle est la stratégie de long terme qu'il faut avoir face à l'opposition de droite qu'on a devant nous, face au parti républicain tel qu'il se développe depuis une trentaine d'années, mais surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Trump? À gauche, le regard stratégique ou le pari stratégique, c'est il faut qu'on arrive à complètement changer le terrain dans lequel la politique américaine se joue, alors que la rhétorique centriste démocrate, on entend aussi de Biden, il y a toujours cette idée de compromis. On va trouver à travailler avec les républicains dits modérés. Et à gauche, la stratégie, c'est beaucoup plus, de mon point de vue, une stratégie un peu de crise. Là, on est face à un adversaire politique qui est en train de changer les règles, qui ne nous regarde pas comme un acteur politique légitime. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un élément de la crise beaucoup plus profonde aux États-Unis et le regard stratégique ou le pari stratégique que fait les figures dans ce livre.
Il y a un autre obstacle très important qui va jouer aussi, c'est le fait que les démocrates n'ont pas une majorité très solide au Sénat eux-mêmes.
Oui.
Il y avait donc deux sénateurs qui avaient le pouvoir de bloquer tout le programme de Joe Biden. Donc Joe Manchin, sénateur élu en Virginie-Occidentale, donc un État très conservateur, bastion historique du mouvement ouvrier américain, où il y avait beaucoup de mines de charbon, avec un riche, un passé syndicaliste très important, mais qui est un État qui s'est paupérisé et qui est très conservateur. Joe Manchin est un peu un dinosaure qui vient d'une autre époque, un démocrate élu en Virginie-Occidentale, mais qui va, pendant au début du mandat de Biden, qui hésite beaucoup sur son soutien éventuel aux propositions économiques et sociales de Joe Biden. Et puis il y a une autre sénatrice de l'Arizona, Kyrsten Sinema, qui elle maintenant est plus au Parti démocrate, ouais, mais qui à l'époque aussi, qui bloquait en quelque sorte l'agenda de le programme politique, de la mise en place du programme politique de Joe Biden.
Et donc, pour un peu schématiser, si je peux, Joe Manchin, la créature en quelque sorte de l'industrie pétrolière dans le Parti démocrate. Sinema, on disait, bon, la créature aussi, de la finance, Wall Street.
De l'énergie, le charbon, parce que.
L'énergie, charbon, pétrole, ouais. Le rapport de force au Sénat n'était pas prometteur forcément à un breakthrough comme la gauche à la Chambre.
Ouais, et juste avec un peu de recul aussi, est-ce que ce n'est pas complètement absurde que ces deux sénateurs avaient une influence si importante? Ils avaient vraiment le pouvoir de changer le destin de si je peux dire, des États-Unis, et par conséquent aussi pas le monde, mais quand même un peu. Si vous regardez la première proposition sur les énergies renouvelables de Joe Biden, qui était beaucoup beaucoup plus ambitieuse que la proposition qui finalement a été approuvée, c'est vraiment la conséquence de l'opposition de ces deux sénateurs. C'est complètement absurde qu'un sénateur élu dans un État avec quelques centaines un peu plus d'un million d'habitants en Virginie-Occidentale, c'est absurde que quelqu'un ait autant d'influence.
Oui.
Ce qui est aussi au cœur de ce podcast, que ça devrait pas être comme ça, mais on est dans un contexte où les décisions prises aux États-Unis ont malheureusement beaucoup trop d'influence.
On devrait éventuellement faire juste un épisode sur le Sénat. Oui, c'est une institution fascinante, horrible, très conséquente, horrible, affreuse,
antidémocratique.
Je pense que si on allait trouver la chambre là où la gangrène politique mondiale se trouve, dans son véritable essence, d'être le Sénat américain. C'est l'endroit.
En tout cas, Sinema et Manchin réussissent à bloquer pendant des mois et des mois et des mois les propositions de Joe Biden. Et finalement, donc Biden avait ce plan très ambitieux du Build Back Better plan, qui à un moment était, je pense, 3 000 milliards de dollars.
Je pense que la première proposition, c'est les 3,5 milliards. Genre quelque trillion, chose comme peut-être une petite quinzaine de l'économie américaine.
Donc, ils voulaient mettre en place des propositions du Green New Deal qui allaient intervenir dans l'économie d'une manière... un état un peu planificateur dans certains aspects.
En sorte de keynesianisme vert, on disait.
Finalement... Manchin et Sinema réussissent
à la diluer.
Et puis on a une autre loi qui s'appelle finalement la loi sur la réduction de l'inflation, qui finalement va dépenser presque 370 milliards de dollars de dépenses en énergie pour contrer le changement climatique. Mais ce plan-là va plutôt donner des subventions au secteur privé.
Ça suscite beaucoup de dire en Europe.
Ce qui va frustrer des Européens qui vont dire mais comment c'est possible que l'État va intervenir pour donner des subventions au secteur privé,
ça va déséquilibrer l'économie atlantique, les entreprises européennes. On y voit les effets concrets, mais bon, les Européens devraient juste faire dehors leur
main. Moi j'ai envie de dire débrouillez-vous et faites votre propre plan, franchement.
Mais Manchin, dans tous ces débats autour du ERA et Build Back Better, ce que lui il a aussi fait entrer, c'est les subventions assez conséquentes pour le charbon, et pas pour le charbon, pardon, pour le natural gas et pour du pétrole aussi. Donc, classique États-Unis, un pas en avant, deux pas en arrière, ou un pas en avant, un pas en arrière. 1,5 pas en avant, un pas en arrière, peut-être.
Est-ce qu'on peut regarder un peu le bilan de Biden juste au sens large? Donc, on a le plan de relance. On a le fameux Inflation Reduction Act, l'IRA, l'IRA. On a des investissements dans les infrastructures aussi. Mais j'ai envie de dire, si on compare avec le programme de Bernie Sanders, qui est défendu par le Squad, on aura presque rien. Le SMIC à 15 dollars, non. Medicare for All, transformation du système médical américain, non, on l'a pas. J'ai pas parlé de la proposition pour réformer, pour faciliter la création d'organisations syndicales, qui est très très important aux États-Unis, parce que on n'a pas de convention collective, on a que des accords d'entreprise, et si vous n'avez pas un syndicat sur place, vous n'avez pas le droit de négocier avec votre employeur. Biden avait proposé de changer ces règles pour faciliter la création de syndicats au niveau d'entreprise, parce que aussi quand vous essayez de créer des syndicats aux États-Unis, vous faites souvent face à une opposition assez féroce de la part des employeurs. Donc il y avait eu des propositions pour faciliter la création de syndicats. Bon, finalement on l'a pas non plus. Donc et puis Green New Deal, comme on vient de le dire, on a une version un peu réduite du Green New Deal. Même j'hésiterais même à dire que c'est une version réduite, ça, parce que c'est dans c'est un cadre très différent pour penser la lutte contre le réchauffement climatique.
Évidemment, il y a de quoi être déçu vis-à-vis des propositions originelles en 2016, 2020, ce que portait au Congrès, ou ce que portent au Congrès les figures comme AOC, comme The Squad, comme Sanders, d'ailleurs, qui est toujours sénateur. Donc oui, il y a de quoi être déçu. Je pense que si on a comparé, ne serait-ce qu'il y a 16 ans, et l'arrivée au pouvoir d'Obama, un peu une situation comparable, avec énorme crise financière. On parlait aussi, la comparaison aussi d'Obama, c'était le nouvel Roosevelt qui allait changer la donne, une fenêtre s'ouvrait avec la crise des subprimes, ce qui mettait en cause toute une génération de doctrines économiques et financières, commerciales. Ne serait-ce que par rapport à ça, ça se voit que Obama n'avait pas la pression des figures comme AOC, comme Sanders, comme les nouvelles organisations qui sont nées au cours des années 2010. Et ça, ça a eu un véritable impact. C'est bien, bien, bien en décalage des attentes. Ce qu'on voit, c'est il y a des lignes rouges, il y a des vaches sacrées pour le Parti démocrate, au-delà desquelles ils ne vont pas vouloir passer. Mais,
moi, j'ai une question pour toi, qu'on n'avait pas, question un peu surprise. Est-ce qu'on peut dire que Biden est un meilleur président que Barack Obama?
C'est assez, bon, on compare deux figures au fond assez regrettables. Je dirais l'offre législative, ou le dossier législatif de Biden, au moins sur la politique intérieure, est plus impressionnant, je dirais. Ça, je dis, n'étant pas un expert dans la politique économique, forcément. On a l'impression qu'il y a un interventionnisme économique plus importante, mais c'est la situation politique qui a complètement changé entre 2008 et 2022 et 2024. Un meilleur président, bon, sur le plan intérieur, peut-être. Sur la politique internationale, là, j'aurais un peu du mal à le dire. Serait-ce que depuis la situation, depuis octobre, on voit que pour Biden, aller au-delà de la doxa du Parti démocrate vis-à-vis de la question de la Palestine, est assez, bon, il n'y va pas, quoi. Ce n'est que depuis peut-être un mois, quelques semaines, qu'on commence à vraiment entendre des critiques de Biden et des figures de proue de ce gouvernement vis-à-vis de ce que mène Netanyahou dans le Gaza sur la colonisation. Oui, on a eu des critiques rhétoriques d'Obama et de Biden, mais une véritable politique de pression vis-à-vis d'Israël, on ne le voit pas. Sur la politique étrangère jusque-là, bon, ça c'est, on entend, c'est tout un autre sujet. Mais c'est ce qui est clair avec Biden, c'est que le contexte dans lequel il est président est changé, et cet contexte est plus propice à des opportunités à gauche, et il les a saisies en quelque partie.
Ce qui s'est passé en 2020, c'est que Biden a pu compter sur le soutien des jeunes, il a pu compter sur le soutien d'électeurs progressistes, des gens qui ont voté pour Sanders, des gens qui sont inspirés par le squad des jeunes politisés aux États-Unis. Biden avait réussi à rassembler ces électeurs-là, même s'ils n'étaient pas d'accord avec tout. Ils ont quand même, ils se sont dit, ces électeurs, que Biden valait mieux que Donald Trump, et qu'ils se sentaient bien en votant pour quelqu'un qui nous rappelait fondamentalement qu'on était mieux que ça, mieux que Donald Trump, parce que on ne peut pas oublier non plus que le Biden en 2020, il avait fait campagne sur le thème de, il disait que c'était une bataille pour l'âme de la nation, pour l'âme du pays. Biden incarnait tout ce qui était fondamentalement, pour moi, il nous rappelait qu'on était mieux que ça, qu'on n'était pas, on ne pouvait pas résumer les États-Unis à Donald Trump, que c'était un peu une exception et pas la norme. Ce qui est assez inquiétant, si je me mets à la place de l'équipe de Biden, un acteur politique si je me mets à la place de l'équipe de Biden, ce qui serait très inquiétant, c'est de regarder les jeunes qui maintenant risquent de ne pas voter pour lui, qui en allant votant aux primaires préfèrent voter uncommitted, c'est-à-dire on peut considérer ça comme une forme de vote blanc, mais qui, en gros, ça veut dire je ne vote pour aucun des candidats. Uncommitted, c'est une forme de vote de protestation assez claire.
Dans les primaires.
Dans les primaires démocrates, on voit qu'il y a des gens qui vont aller voter, qui font le choix de se déplacer aux urnes et qui disent « Moi, je ne veux pas voter pour Biden, je veux voter pour Uncommitted, pour montrer que je ne suis pas content. » déjà des dizaines, voire plus de centaines de milliers de gens qui ont voté uncommitted jusqu'à présent. Ça, c'est assez inquiétant. Enfin, moi, si je vais mettre à la place de l'équipe de Biden, je dirais que c'est assez inquiétant. Si on veut faire des comparaisons historiques, Biden, pour moi, peut-être ressemble à un peu à un président, un autre président qu'on a connu, Lyndon B. Johnson, dans les années 60. Un président qui, lui aussi, venu du Sénat, qui avait commencé sa carrière comme un mec qui maîtrisait parfaitement bien les
rouages institutionnels. Ouais.
du Sénat.
Un peu un démocrate conservateur, ouais. Au moins de l'origine.
Qui ensuite est devenu vice-président, mais qui ensuite devient président après l'assassination de Kennedy dans les années 60. Mm. Donc Biden, Lyndon B. Johnson qui devient président. Et qui avait commencé son mandat présidentiel avec plein de réformes très importantes, en faisant alliance avec ce mouvement pour les droits civiques, mené par Martin Luther King, parmi d'autres, avec avec des réformes vraiment très très fondamentales comme le Voting Rights Act, le Civil Rights Act, le Voting Rights Act qui est une loi qui protège le droit de vote des Noirs américains.
Depuis cannabilisé par la Cour suprême depuis une dizaine d'années.
Oui,
on y reviendra.
En partie. Donc le Voting Rights Act et puis le Civil Rights Act, texte législatif historique très très important aux États-Unis qui protège contre la discrimination raciale au niveau fédéral, donc un texte super important. Grâce à l'intelligence politique de grâce à la protestation évidemment et aux mouvements sociaux en premier lieu, c'est ça qui est responsable, mais aussi
une souplesse stratégique.
Voilà, une souplesse stratégique de Brené Brown qui comprend que en fait, il faut faire alliance avec ce mouvement. Et donc on a ces textes historiques, et puis il y avait Lyndon B. Johnson qui aussi est responsable pour Medicare, la mise en place de ce système fédéral d'accès aux soins pour les personnes âgées, une extension, un élargissement de la sécurité sociale aux États-Unis, qui a été créé par Roosevelt dans les années 30. Donc des textes vraiment considérables. Mais qu'est-ce qui se passe avec Lyndon B. Johnson?
Crise de la politique étrangère, c'est le Vietnam, c'est un président qui a perdu sa légitimité par son agressivité à mener la guerre.
Complètement, et vers la fin de son mandat, on voit que sa présidence est définie de plus en plus par la guerre au Vietnam, et on oublie les réformes précédentes. Et maintenant, la question qui domine sa présidence, c'est la question du Vietnam. Bon, vous me direz que, évidemment, il y a des différences avec la situation à Gaza. Il n'y a pas des troupes américaines qui sont en train de mourir, en train de faire... de mourir à Gaza. Donc, il y a une énorme différence. Là, au Vietnam, il y avait des milliers déjà à ce moment-là, dans les années 60, des milliers de soldats américains qui étaient morts. Donc, bon, la situation est très, très différente. Mais pour une partie de la jeunesse... Pour une partie de la base démocrate,
c'est incompréhensible le positionnement, la réponse.
Et je pense qu'il y a un sentiment de dégoût.
De trahison,
Et que finalement Biden, qui se positionne comme la conscience morale des États-Unis face à ce danger absolument horrible incarné par Donald Trump, est-ce que Biden finalement, comment on peut croire ça si on voit ce qui se passe à Gaza? Je dis pas qu'il faut pas voter pour Biden, mais j'essaie juste d'expliquer un peu la mentalité de certains électeurs.
L'alliance qui a permis à la victoire de 2020 est très fragilisée. C'est ça la crise de fond de cette élection du côté démocrate. C'est la rupture.
Et pour moi, est-ce que ce qu'on est en train de vivre là, ce moment, est-ce que ça montre aussi un peu, est-ce que ça montre pas les limites du squad aussi en termes d'influence, de vraie influence politique? On peut parler de ils sont en train de changer le débat, ils ont réussi à convaincre Biden sur ce point-là. Par contre, quand il s'agit de la politique étrangère, on voit l'influence quand même assez limitée de cette aile gauche du Parti démocrate.
Je pense que ça permet aussi à une côté du livre qui moi je pense un de ses points forts, c'est la façon dont Grimm donne des détails très 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 nourris sur en fait la réaction au sein du Parti démocrate depuis qui menait un peu la lutte contre le squad. Et on voit en vrai des organisations ou des factions dans le Parti démocrate très agressifs, très liés à des réseaux de donateurs et de fondations très conservateurs pour concurrencer et contrecarrer ces figures. Donc, le Parti démocrate, c'est pas comme si, c'est Biden et le squad qui se parlent dans le vide. Il y a aussi des pressions qui ont tiré Biden de l'autre côté. Et lisant ce livre maintenant, c'est surtout la guerre contre le Gaza. On voit ce qui est intéressant à le relire, c'est ça, ça remet ça remonte l'importance de l'élection de 2022, les élections de mi-mandat, qui le livre le dessine très bien, où on fait le portrait très bien. C'est vous avez une véritable campagne menée par des organisations très liées à l'Israël, dont EPAC ou un autre organisme. EPAC, c'est American Israeli Political Action Committee, et une autre organisation, le Democratic
Majority for Israel.
Democratic Majority for Israel, qui, bon, c'est un peu l'équivalent de l'affaire islamo-gauchiste en France, où on scrutait toute référence de ces figures à la question de l'Israël et la Palestine, et il y avait des investissements, on parle des millions et des millions, des dizaines de millions de dollars investis par ces groupes dans les primaires pour faire blocage à des membres du squad qui ont plutôt tenu en 2022, mais aussi contre une nouvelle série de candidats qui voulaient les rejoindre. Et là, le bilan des élections de mi-mandat de Grimm, c'est qu'en fait, la contre-révolution, c'était un peu une victoire de la droite du Parti démocrate.
Peut-être pour conclure, parce qu'on approche un peu vers la fin de ce podcast, ouais. Je voulais revenir un peu sur le pari stratégique de Sanders et de cette du squad, en quelque sorte, qui me fait penser beaucoup au contexte français, même au contexte britannique. Sanders et le squad, comme je disais au début, eux, ils sont convaincus du fait qu'il faut construire une majorité sur la base des gens qui ne votent pas, les abstentionnistes, et qu'il faut viser les classes populaires, ce qu'on appelle le working class en anglais. Que même si ces gens-là soit ne votent pas, soit votent pour les républicains, en fait, notre avenir politique, nos ambitions de transformation sociale nous obligent de faire alliance, de construire une coalition politique qui est basée sur le working class et sur ces électeurs. Et c'est un pari qui est, j'ai envie de dire, moitié réussi, mais qui, en quelque part, qui est réussi, mais qui a aussi ses limites. Sanders réussit à convaincre des jeunes, il réussit à convaincre une partie d'électeurs populaires, c'est ce qu'on voit dans les sondages. On voit qu'il y a un peu que Sanders réussit à capter une partie de cet électorat-là. On voit aussi que le squad, ces élus, qu'eux aussi, ils réussissent, mais ils réussissent dans des contextes, dans des circonstances assez particulières. Si vous regardez les circonscriptions où sont élus ces jeunes démocrates de l'aile gauche du parti, ce sont des circonscriptions dans des zones urbaines ou la banlieue, avec des électeurs de couleur, comme on dirait aux États-Unis, donc souvent des immigrés ou des personnes noires, des Afro-Américains, et puis aussi des électeurs blancs, mais qui sont un peu moitié classe populaire, classe moyenne, mais qui n'ont pas beaucoup de d'argent non plus. En fait, ce sont ces zones un peu de mixité sociale, si je peux utiliser ce terme-là, dans des zones urbaines. C'est ça la base de cette aile gauche du démocrate pour l'instant. On le voit avec dans Astoria, Minneapolis, Détroit. C'est une partie des États-Unis. Je dis pas que les villes sont pas importantes, mais il y a aussi une autre partie des États-Unis qui, elle, semble moins attirée par l'offre politique incarnée par ces figures. C'est ça le défi. C'est comment élargir cette base électorale. Ça me fait penser beaucoup à la situation en France où on voit avec la campagne de Mélenchon que lui aussi, il réussit à gagner le soutien d'une partie des classes populaires, mais je pense 25%, ça dépend de comment on définit ça, mais 25% selon les sondages.
Maintenant, la pression de l'autre côté du parti, c'est une stratégie visant l'ancien base du Parti républicain, à savoir les banlieues aisées, the suburbs, the suburban middle class, the suburban upper middle class. Ça, c'est un peu l'autre stratégie pour la crise politique dans laquelle les États-Unis se trouvent. C'est, il faut qu'on soit crédible pour celles et ceux qui ont à perdre d'une classe plutôt aisée qui autrefois était la base d'une partie républicaine très bourgeois, très bourgeois.
Et tu sais, honnêtement, là, je veux dire, à la base, je voulais pas parler de ça, mais je pense que c'est le moment de le dire, parce que je parle rarement de là où j'ai grandi, ma vie personnelle, mais là, ce que tu décris, on le voit là où j'ai grandi, dans le Connecticut, la banlieue un peu huppée de New York. Quand j'ai habité là-bas, c'était une zone...
c'est la country, très... comme on disait, country club Republican.
Ouais, les gens ont voté pour les républicains. Ma ville où j'ai grandi, c'était une ville républicaine, ouais. Avec très peu de... Mais moi, je me rappelle très bien, ma mère faisait toujours campagne pour les démocrates, et on perdait chaque fois. Oui. Mais en 2016, ces électeurs-là, donc plutôt aisés, dans une banlieue confortable, ils ont voté pour les démocrates, avec une majorité assez considérable. Et on l'a vu depuis, en 2018, en 2020, en 2022. Je pense qu'on va le revoir en novembre 2024, cette banlieue... en tout cas, ces électeurs dans le Connecticut, ils vont sans doute voter pour les démocrates. Donc on voit un peu une transformation de la base démocrate aussi. Moins d'électeurs populaires blancs, plus d'électeurs... classe moyenne, voire classe aisée, qui habite dans les banlieues
qui votent aussi, qui votent aussi disproportionnellement plus que la base ou là où les membres du squad disent qu'on devrait aller chercher les votes. C'est ça, c'est les valeurs sûres de voter, c'est les banlieusards aisés.
Oui, avec quand même, voilà, quand même, c'est pas négligeable, avec une base qui ressemble un peu à, avec une base aussi, une petite partie de la base. Qui va élire des députés très très progressistes dans des coins comme Astoria, Détroit, ce mélange, comme je disais, d'immigrés, classe populaire, classe moyenne, avec trop d'aides étudiantes et on dit downwardly mobile aux États-Unis, avec beaucoup d'aides étudiantes, pas beaucoup de perspectives professionnelles, et qui vont faire alliance un peu avec ces électeurs moins aisés.
Je pense est-ce qu'on s'approche
Je pense qu'on est un peu à la fin,
Cole. Oui, bah c'est un bon livre. Est-ce que ce sera traduit en français, le livre de Ryan Graham, ou pas? On va voir. Mais c'est un bon livre sur une des tendances plutôt prometteurs dans la vie politique, autrement assez désolante aux États-Unis, cette tentative depuis 2016 d'un peu gauchiser. Une institution verrouillée, telle le Parti démocrate, tout n'a pas été perdu, tout n'a pas été gagné.
Et peut-être qu'on verra une candidature de... Et aussi, 2028, peut-être.
Bah, aussi Biden est encore là en août.
Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas prévoir.
Ouais. Est-ce qu'il est toujours vivant? Ça, c'est une question.
Ouais, ça, c'est une autre question.
Ça, c'est on le prochain pas épisode.
On va faire toute une émission sur la santé de Joe Biden, où on va analyser tous ses discours pour voir comment il a évolué, si on peut... Ça, c'est vraiment de la fine analyse politique.
Oui. C'est quoi la phrase de ce rapport d'un avocat du département de la justice, c'est sur les documents que lui il aurait pris en partant de la Maison Blanche après Obama. Et cet avocat
Robert Hur, il s'appelle,
oui, nommé par Trump, entre parenthèses, mais bon, donc on dit que c'est une sorte d'opération deep state, d'état profond républicaine, peut-être, mais son portrait mental de Biden comme un homme aimable,
âgé,
plutôt aimable, mais avec un mémoire...
Mauvais mémoire.
Mais est-ce qu'on veut vraiment donner le dernier mot à Robert Hur?
Non, écoute, on va voir, ce qui se passe là dans les mois à venir. Est-ce que Biden va réussir à gagner cette élection en comptant sur la mobilisation massive d'électeurs un peu aisés qui habitent en banlieue, ou est-ce que finalement ces électeurs ne vont pas se mobiliser et aller aux urnes? En parlant avec des gens, et d'ailleurs tu le vois aussi, il y a des articles qui le disent aussi, des gens proches de Biden disent pour le moment ils ne sont pas trop inquiets parce qu'ils se disent, quand une majorité d'Américains vont voir que vraiment, vraiment...
Trump va gagner.
Trump va être candidat et que Biden va être candidat, à ce moment-là, ils vont vraiment se réveiller et aller voter Biden. Et que pour l'instant, même si ça paraît complètement dingue, là, on est à 8 mois de l'élection et nous, on discute de la politique américaine, une majorité d'Américains peut-être ne sont pas au courant du fait qu'il y aura ce rematch entre Biden et Trump. C'est en tout cas un peu le pari de l'équipe de Biden. Mais bon.
À voir si c'est trop optimiste et un peu une politique de l'autruche. À voir.
À voir. Et bah, peut-être on peut arrêter là et puis on prendra la prochaine fois, on va parler de la droite.
Oui, donc on n'a pas encore vraiment de calendrier pour les épisodes, mais on veut faire ça...
rapidement.
Un peu rapidement, ouais. Sur le temps, Cole qui habite maintenant à Marseille, ce sera un peu la rapidité marseillaise.
Je te laisse pas m'insulter ma ville comme ça, Harrison.
À
la prochaine.
Oui, à la prochaine.
Merci d'avoir écouté à la prochaine.
À la prochaine.